Et bienvenue à l'émission Les Voix de Service Magazine, édition du 14 décembre 2017. Bonjour.
Je me rends compte que votre micro est à l'envers, ma chère Marie.
Mon micro est à l'envers, mon Dieu. Que faire avec ce micro? Un instant. Tournons le micro.
Et voilà.
Rebonjour. Et re-bienvenue à l'émission Les Voix de Service Magazine, édition du 14 décembre.
Vive le direct.
C'est Marie Lalande qui vous parle.
À l'endroit.
Dans le bon sens. Avec moi, Aurélie, vous les avez entendus, l'équipe du jeudi matin, Monique Kirouac.
Bonjour, Marie.
Bonjour. Et Yvan Deslauriers.
Bonjour, Marie.
Bonjour, Yvan. Et Mathieu Tessier, à la régie.
C'est moi, ça.
Bonjour, Mathieu. Alors, chers collaborateurs, qu'est-ce que vous allez nous présenter aujourd'hui?
Bien, de mon côté, avec la température, des fois, une des choses qu'on pense faire, c'est d'aller au cinéma.
Oui.
Quand il fait très chaud, quand il fait très froid. Hein?
Mm-hmm.
Alors, je vais vous parler de cinéma, mais toujours avec une optique d'activité physique.
Mm-hmm.
Et mon deuxième sujet, un autre regroupement qui est très populaire de ce temps-ci, c'est Jeunesse au soleil. Mais encore là, je vous le présente avec un autre angle.
Ah, c'est toujours un peu mystérieux.
Bien sûr.
Ah, oui. Venez.
Alors, dans ce temps de festivité, de Noël qui approche, eh bien, je vais vous parler de stress. Il y a eu une conférence à l'Université de Montréal et des chercheurs de différents, je dirais, profils nous invitent à gérer un peu mieux notre stress.
Mm-hmm.
Et le deuxième article, c'est un peu des bilans, en fait. Un bilan sur les cyclones et qu'est-ce qu'on a appris à partir du cyclone Irma.
D'accord. Et de mon côté, je vais vous parler de ce qu'on peut faire pour diminuer justement le stress que vivent parents et enfants durant le temps des fêtes, dans un premier article. Et ensuite, je vous parle d'amotivation. Donc, le mot motivation avec le préfixe A. C'est parti?
D'accord.
Alors, Monique, le stress.
Oui, alors c'est sous la plume de Martine Letarte pour le journal Forum de l'Université de Montréal, le numéro du 8 décembre 2017. L'article s'intitule « Le stress, notre meilleur ennemi ». Alors, plus que jamais, en cette ère de performance, les gens sont stressés. De fait, plus de 25% des Québécois se disent touchés par le stress au quotidien.
Non, une personne sur quatre.
Oui, ça c'est d'après Statistique Canada.
Mm-hmm.
On souhaite souvent éliminer son stress, mais malheureusement, il est essentiel à notre survie.
Mm-hmm.
Donc, il faut le garder et peut-être tenter de mieux le gérer.
Mm-hmm.
Est-ce possible?
Oui.
Voilà ce dont sont venus nous proposer, ce que nous ont proposé plutôt le 5 décembre dernier à la 4e conférence de l'Université de Montréal, 4 chercheurs. Donc Sonia Lupien, qui est fondatrice du Centre d'études sur le stress humain que l'on entend régulièrement à la radio et professeure au département de psychiatrie de l'Université de Montréal. Lourdes Rodriguez Del Barrio, qui elle est professeure à l'École de travail social. Et Thierry Bardini, qui est de son côté directeur du département de communication, toujours à l'Université de Montréal, et spécialiste de cyberculture. Alors, vous voyez, c'est 3 profils différents.
Ouais.
Et on vit du stress par rapport à ces 3 secteurs d'activité-là. Donc, qu'est-ce que le stress au juste? Alors, le concept de stress a été défini dans les années 30 par une personne qui s'appelle Hans Selye. On le connaît. Il a fait carrière à Montréal, et spécifiquement à l'Université de Montréal. Et je pense que le livre le plus connu, ce serait certainement « Le stress sans détresse ». Alors, lorsque le cerveau détecte une menace, a expliqué Sonia Lupien, il envoie un signal aux glandes surrénales qui produisent des hormones de stress. Grâce à l'énergie, la vigilance et la mémoire, ainsi accrues par cette activation, on peut accomplir les deux seules actions synonymes de survie, combattre ou fuir.
Hmm.
Si vous vous rappelez mon oncle d'Amérique, le film dans lequel jouait, entre autres, je crois, Gérard Depardieu, on traitait de ça, ouais. La fuite ou le combat, okay. La crise cardiaque ou on s'en va. Ouais. Nos ancêtres, donc, vivaient des stress dits absolus, comme l'arrivée d'un mammouth, qui est une menace réelle pour tout le monde, nous a dit Mme Lupien, qui est aussi auteure du livre qui s'appelle « Par amour du stress ». Ce serait très intéressant de lire ça. Mais aujourd'hui, dans notre monde riche, éduqué et en santé, les menaces absolues sont plutôt rares.
Il n'y a pas tellement de mammouths.
Il n'y en a pas beaucoup, non. Pourquoi alors sommes-nous si stressés? Ce serait la faute des stress relatifs. Alors, chaque facteur de stress comprend minimalement l'une de ces quatre caractéristiques. Faible impression de contrôle, imprévisibilité, nouveauté, et menace de l'ego.
C'est ça.
Pas mal important, celui-là, de l'ego. Toutefois, chaque personne interprète différemment les stresseurs, donc la réponse au stress varie aussi. Si un peu de stress aide le corps à atteindre le sommet de sa forme, trop de stress, bien sûr, va nuire à son fonctionnement. Alors, tout est une question de dosage. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut travailler à influencer sa réponse à des agents stressants relatifs. Par exemple, en considérant des situations difficiles comme des défis, en élaborant des plans B. Même si on ne les met pas à exécution, ces plans B, c'est avoir un plan de rechange calme le cerveau.
Puis ça nous permet de contrôler la situation.
Un peu plus. Ouais. Si les hormones de stress se trouvent à l'intérieur de soi, notre environnement a aussi une incidence sur les menaces auxquelles nous sommes confrontés. Alors maintenant, le point de vue de Lourdes Rodriguez del Barrio, qui est dans le travail social, il ne faudrait pas négliger le rôle des institutions sociales qui gèrent, entre autres, la famille, l'école, les services et la santé. Elles apportent à ses yeux de la stabilité et favorisent une impression de contrôle sur le monde dans lequel on vit. Toutefois, ces institutions, on le sait, subissent toutes sortes de tensions et l'on assiste à certaines dérives. Par exemple, on note une dépersonnalisation des services donnés et beaucoup de solitude. À ce moment-là, ça ne fait que créer des souffrances. Et la souffrance sociale, dont doit se transformer en maladie pour être reconnue, et l'on a tendance à prescrire davantage de médicaments psychotropes comme antidépresseurs, des anxiolytiques, au lieu d'offrir des interventions psychosociales à ces gens en situation de vulnérabilité. Le troisième aspect, Internet et les médias sociaux, comportent aussi leur lot de stress. Plusieurs personnes tombent maintenant dans la catégorie des compulsifs numériques. J'espère que vous n'en êtes pas, chers collaborateurs.
Si peu.
Ces gens sont constamment connectés, même la fin de semaine, peut-être la nuit, et submergé par une masse d'informations, nous dit M. Thierry Bardini. Il souffre de FOMO, F-O-M-O, Fear of Missing Out, c'est-à-dire la peur de rater quelque chose, comme la plus récente nouvelle ou les j'aime. D'autres se sont mis à craindre les algorithmes qui décident de plus en plus ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, tels ceux de Google et de Facebook. Le stress numérique existe, mais il est très variable selon le sexe, l'âge et la situation des individus. M. Bardini nous dit ça, et lui rêve qu'on arrive à utiliser le stress numérique quand il peut servir de moteur et à le mettre en veilleuse au besoin.
Ouais.
Il faut aussi libérer l'énergie mobilisée par le stress. Nos ancêtres la dépensaient en combattant le mammouth. Mais si nous sommes derrière notre volant, dans la circulation, sur le pont Champlain, nous restons pris avec notre énergie, a rappelé Mme Lupien. Pour la canaliser, alors écoutez bien, vous allez être contents, chers collègues, disons. Elle suggère de faire du sport.
Voilà.
Mais aussi de danser, de chanter. Et ce que nous préférons, nous trois, mais rire. Ou simplement de prendre de grandes respirations par le ventre. Pas une petite respiration là, de thorax qui donne absolument rien. Alors, Ces activités font entrer l'air qui agit sur le diaphragme et cela envoie le signal au cerveau qu'il peut arrêter sa réponse au stress. Donc, inclure le chant, le rire et différentes activités permettrait de prévenir beaucoup de problèmes de santé, autant chez les jeunes que dans les centres d'hébergement et de soins de longue durée, pour éviter certainement plusieurs prescriptions de psychotropes. Mm-hmm. Alors, c'était le texte de Martine Letarte pour le journal Forum du 8 décembre dernier.
Alors, on a de la suite dans les idées. Un temps des fêtes sans stress pour les enfants particulièrement.
Ah, bien sûr.
Un texte de Julie Hogg, qui est psychoéducatrice et maman, et qui a été publié, donc, ce texte sur le blog tatribu.com. C'est un site pour les parents, le 7 décembre dernier. Les souvenirs que je garde du temps des fêtes lorsque j'étais enfant sont simples. Les biscuits de ma mère, le matin de Noël en pyjama, jouer dehors jusqu'à avoir les pantalons de neige détrempés, le jour de l'an au chalet des grands-parents. Était-ce mon imaginaire d'enfant où la magie de Noël était plus simple autrefois? Les enfants vivent beaucoup de stress associé à la période de Noël. Même positif, ce stress peut se manifester par une augmentation de crises ou de conflits, une accumulation de fatigue, un refus de participer aux activités, etc. Comment pouvons-nous, comme parents, accompagner nos enfants à gérer ce stress tout en préservant la magie des fêtes? Une bonne partie du stress vécu par les parents serait transmise à leurs enfants. Il est donc primordial de commencer par prendre soin de soi avant tout. Trois exemples de ce qu'on peut faire. On oublie le Noël Pinterest. Ce n'est pas nécessaire. Le plus beau, là, ce qui scintille partout. Là. On garde en tête que ce sont les traditions et les moments partagés qui nous restent au final. On pourrait essayer une autre formule cadeau, plutôt que de se précipiter dans les centres d'achat bondés et de dépenser une fortune. On peut faire une pige, décider d'un thème de cadeau recyclé, donner des cadeaux seulement aux enfants, faire un échange de livres usagés, etc. On s'accorde un temps personnel pour chaque activité sociale, même un bain de 15 minutes ou lire avant de se coucher recharge nos batteries. Une autre façon de se ménager en tant que parent, mais aussi de préparer son enfant à une période plus intense, est de planifier notre temps des fêtes. L'heure de planification investie avant la frénésie des fêtes nous en vaudra plusieurs pendant nos vacances. On peut faire une liste des choses qu'on a aimées et moins aimées dans les dernières années. On garde juste le bon. L'exercice peut être fait avec les enfants aussi. On fait un horaire des prochaines semaines et on le regarde avec les enfants. Dans le cas des familles recomposées, les enfants peuvent être sécurisés avec un calendrier illustrant leurs différents déplacements. On discute de la journée du lendemain pendant la routine du dodo. L'enfant se sentira plus en contrôle et pourra se préparer à ce qui s'en vient. On pourrait débuter une tradition et choisir une sortie familiale. Et une seule à chaque année. On fixe une journée plutôt que de se mettre de la pression pour trouver des activités spéciales à faire pendant deux semaines. On utilise souvent le prétexte des semaines de congé pour pacter, mettez des guillemets à pacter, son horaire, et on revient au travail encore plus fatigué.
Je pensais que c'était se pacter.
Non, on est dans un contexte parental. Excusez. Ici. Ces périodes sont aussi plus intenses pour les enfants. Il faut faire attention donc de ne pas leur proposer trop d'activités qu'ils n'ont pas l'habitude de faire et garder du temps pour se reposer. Alors, on essaie de garder des moments libres presque à chaque jour. On prévoit une journée de congé entre les visites à l'extérieur. Pourquoi? Pour revenir à la routine normale à la maison. Maintenir les routines principales, on parle du sommeil, de l'alimentation, permet de faire des spéciaux qui seront agréables pour tout le monde. On laisse tomber les combats pour faire du travail scolaire, les études, des projets. C'est vrai même si notre enfant a du retard, son stress n'en sera qu'augmenté et il a aussi, et moi je dirais surtout, droit à du repos. on évite les conflits. En préparant les transitions, les fins d'activité, les départs, on peut l'aider à mettre fin à son activité et faire des rappels de temps, par exemple. Un enfant plus timide vit de l'anxiété lorsque les gens sont intrusifs ou qu'il sent de la pression. Par ailleurs, le temps des fêtes est une excellente occasion pour l'aider à développer ses habiletés sociales. On ne banalise jamais ses craintes. On ne surprotège pas son enfant, mais on ne le brusque pas non plus. On lui permet de rester un peu à l'écart ou de s'asseoir sur nous au début de la soirée. En respectant son rythme, on l'amène tranquillement à saluer et à interagir avec une personne à la fois. On encourage son enfant à interagir avec les autres jeunes en lui montrant comment intégrer un jeu déjà entamé, en lui donnant des exemples de questions à poser, etc. On offre notre présence rassurante au début afin qu'il se sente plus à l'aise, gagne de la confiance et qu'il ne passe pas toute la soirée collé sur nous pour ensuite regretter de ne pas avoir joué avec les autres. On l'éloigne de temps en temps de l'action en lui offrant un temps pour retrouver sa bulle et un moment avec nous. On le félicite lorsqu'il se retire lui-même quand c'est trop pour lui. On pourrait aussi amener un jeu ou une activité familière. Il se sentira plus à l'aise et il entrera plus facilement en relation avec les autres en terrain connu. Au nom de la politesse, on met souvent de la pression aux enfants pour qu'ils donnent des câlins ou des bisous à des dizaines de personnes qu'ils voient une fois par année. Le stress augmente lorsqu'on se sent obligé de poser des gestes qu'on n'est pas à l'aise de faire. Alors, on pourrait apprendre à son enfant qu'il y a plusieurs façons de saluer. On a le choix entre faire un bisou, faire un câlin, dire bonjour, au revoir, ou faire un signe de la main. Toutes ces options sont aussi polies l'une que l'autre. Alors que vous décidiez de mettre en application une ou plusieurs de ces suggestions, sans rajouter à votre stress, évidemment, l'objectif est de tous profiter un peu plus de notre temps des fêtes cette année. Voilà, c'est un texte de Julie Hogg, qui est psychoéducatrice, maman, ne l'oublions pas, qu'elle a publié sur le blog tatribu.com le 7 décembre.
Moi j'ai confiance qu'on peut sortir, qu'on peut marcher encore. Moi j'ai confiance qu'on peut parler, qu'on peut être bien dehors. Moi j'ai envie d'être en vie, de parler encore plus fort et d'être avec mes amis qui me parlent des rivières du Grand Nord, des grands torrents qui s'en viennent pour soulever, couler les champs, mouiller les dents, noyer les larmes qui recouvrent nos parents, mouiller la peur des caresses qui donnent peu en demandant, foutre le bordel dans les lits qui pleurent d'être mort en boudant. Viens, prends ma main, je te donne la mienne, sans peine on part, on va plus loin. Ça sert à rien de fixer les traces derrière nos pas sur la fine glace. J'ai enfin retrouvé mes patins, remets les tiens, je te donne la main. La vie est belle une fois chez elle, chaud dans ses bras, je n'ai plus peur d'elle. Chaud dans ses bras, même si on gèle, vu avec elle, je t'offre mes ailes. Moi enfin la croisée des chemins et tout ira bien.
Alors il s'appelle Philémon Simon et c'était Moi j'ai confiance.
Yvan, tu nous amènes au cinéma.
Oui, je vous amène au cinéma, mais pour parler de hockey, par exemple.
Ah.
C'est dans un article que je prends souvent cette revue-là, mais je pense que c'est la première fois que je l'utilise en onde. C'est le magazine Voir. C'est un article de Olivier Boisvert-Magnan de l'édition de décembre 2017. Ça s'intitule « Un cinéma de hockey ». Évidemment, c'était trop long, alors j'en ai coupé des bouts. C'est sûr que quand on parle de hockey, ça fait résonner quelque chose chez les spectateurs. C'en est presque viscéral, estime Éric Tessier. Éric Tessier, c'est celui qui est à la barre de Junior Majeur, successeur du très populaire Les Pee-Wee 3D, paru 5 ans plus tôt. En quelque sorte...
On a tous vu ça.
Moi, je l'ai vu tout dernièrement, d'ailleurs.
Pee-Wee 3D,
oui. Oui, mais c'était à la télévision chez nous, ça fait que c'était pas 3D, juste Pee-Wee. Mais c'était très bon, en tout cas. En quelque sorte, le sport devient une caisse de résonance pour parler de plein de choses. Pourtant... Le hockey n'a pas toujours été aussi vivant dans notre cinématographie. En fait, il a fallu attendre que Lance et Compte lance la vague à la télévision. C'est là qu'on s'est rendu compte qu'au-delà du fait que les Québécois sont des amateurs de hockey, ils pouvaient être intéressés à se faire raconter des histoires, Monique, elle me regarde avec un sourire, qui se passent dans ce milieu-là. C'est ça qui a donné naissance aux Boys.
Oh wow! Oh boy!
Ouais. Réalisateur des 3 premières productions de cette populaire franchise qui a ensuite pris ancrage à la télévision, Louis Saillat a été surpris du succès aussi manifeste qu'a obtenu le volet initial. On s'était dit que si ça faisait 2 millions, si on faisait 2 millions de dollars, on serait content. Finalement, on a dépassé le 6. À sa deuxième semaine sur les écrans, en décembre 1997, on se souvient tous ce qu'on a fait en décembre 1997, la comédie a même réussi à dépasser Titanic au box-office québécois. Monique, arrête pas de rire depuis le début. La légende veut qu'un producteur de Los Angeles ait ensuite appelé le président d'une chaîne de cinéma de la province pour lui demander « What the fuck is Les Boys? » C'est une vraie histoire, ça, confirme Saya. Le Québec était la seule place dans le monde où Titanic n'était pas en première place le premier week-end. Ce succès-là a entraîné un renouvellement du goût des Québécois pour leur cinématographie, analyse Pierre Barrette, professeur à l'UQAM, là c'est sérieux,
oui.
Et docteur en sémiologie du cinéma. Dès la fin des années 1990, on a vu apparaître des films de genre, ainsi alors qu'avant, notre cinéma était essentiellement un cinéma d'auteur. C'est à ce moment que le hockey a émergé comme un support narratif. Selon le professeur, ce support narratif se déploie en 2 perspectives très différentes. D'abord, il y a la dimension héroïque, visant à mettre de l'avant des personnages de degré supérieur. On veut montrer des modèles positifs et gagnants qui s'élèvent au-dessus des masses, explique-t-il en mentionnant Lance et Compte et Maurice Richard. On a toujours manqué un peu de récits de la sorte au Québec, contrairement aux États-Unis, qui ont une longue tradition de films héroïques, que ce soit des westerns, des films de gangsters, des biopics de présidents, etc. Ici, le hockey apparaît comme un bon réceptacle pour raconter ce genre d'histoire. Ensuite, notre sport national peut aussi être le théâtre de personnages du commun, comme c'est spécifiquement le cas des Boys. Le hockey devient alors une métaphore de l'amitié, un prétexte pour exploiter des filons familiaux, professionnels ou amicaux. On met en scène un milieu dans lequel les gens peuvent se reconnaître. C'est exactement ce rapport d'appartenance qu'a voulu développer Louis Saillat. C'est un film sur le sport, mais c'est surtout un film sur une gang de gars qui se retrouvent entre eux autres. Ce qu'il y a d'intéressant avec les personnages, ce sont leurs failles. C'est ça qui fait que le spectateur peut s'identifier à eux.
Tout le monde se souvient de la force du mental.
La force du mental! Dans Junior Majeur, Éric Tessier, a également voulu miser sur des personnages nuancés et une histoire plus large, dépassant le simple cadre du hockey. Avant tout, le scénario parle de la transition à l'âge adulte, de ce moment où l'on doit prendre ses responsabilités et assumer ses gestes. La glace, c'est seulement le lieu où s'exprime le conflit qu'on a construit tout au long du récit, explique-t-il à propos de cette incursion dans la vie d'un jeune hockeyeur prodige évoluant avec les Saguenayens de Chicoutimi. À son avis, ce genre d'histoire a le potentiel de parler plus directement au public québécois qu'une production américaine du même genre. Ça parle de nous autres et ça résonne avec notre réalité. Là-bas, les films de hockey semblent se baser davantage sur le sport en soi. Pour le professeur Pierre Barrette, l'engouement que génèrent les films de hockey québécois au box-office depuis maintenant 2 décennies peut avoir un lien avec le rendement plus inégal des Canadiens de Montréal durant cette même période. Il y a probablement une dimension nostalgique là-dedans. Le hockey est un sport socialement ancré dans la population, alors le fait que le Canadien ne gagne pas, ça peut favoriser ce genre de film, soutient-il. Par contre, je n'ai pas l'impression que la cadence ralentirait si le club se mettait à gagner. En fait, il faudrait qu'on gagne une Coupe Stanley pour prouver cette théorie, mais poursuit Éric Tessier en riant. Gagnons-en une et regardons le rythme de production des 10 années à venir. Alors, c'était un résumé de l'article « Un cinéma de hockey » écrit dans le magazine Voir de décembre 2017.
Formidable. Est-ce qu'on a le temps pour une petite histoire de dinosaure, peut-être?
Ah, une petite histoire de dinosaure?
Oui.
Oui, pourquoi pas? Juste un instant, j'y arrive. Alors, des dinosaures blottis les uns contre les autres. 3 squelettes de dinosaures à plumes ont été retrouvés dans le désert de Mongolie, dans une position laissant penser qu'ils sont morts en dormant côte à côte. Un nouvel exemple de comportement proche de celui des oiseaux.
Ah, c'est formidable. Alors, restez avec nous pour la suite de l'émission. Les Voix de service magazine se poursuit après la pause. À tout de suite.
Ça m'apprend de temps en temps, été, automne, hiver, printemps, je ne fais rien, rien ne me tente, je suis pas feignante, je suis farnette, je travaille pas, je cuisine pas, je ne range pas, je ne lis pas. Je fais niente, je suis absente. Je suis pas feignante, je suis farniente. Je me tremble, je me moquette, je me fauteuille ou je me couette sur un sofa, l'effort. Je me coussine et je me rêve comme je l'ai dit dans une formule en m'étirant, je coince la bulle, je ne fais rien, rien ne me tente, je suis pas feignante. Des trucs, moi rien ne me tente, je suis pas feignante, je suis farniente, je le travaille pas, je le cuisine pas, il me dérange pas, ne vois pas. Je fais niente. Je suis absente. Je suis pas feignante. Je suis farniente. Il me fauteuil, puis il me couette. Mais quelle cadence et quel express. Mais on dirait qu'il est aux pièces. Il me surveille du coin de l'œil par charité pour son orgueil. Je fais ah. À peine tricheuse, je sais qu'il va me dire heureuse. Je ne le trompe pas, je n'ai personne. Il y en a qui disent que je suis. Je ne fais rien, rien ne me tente. Je suis pas feignante, je suis farniente.
Oui, c'était Charlotte Rampling et sa chanson Farniente.
Alors, on va se réveiller un peu. Je vous lis un texte dont le titre est A. Le A est entre parenthèses. A motivé à apprendre. C'est un texte de Bruno Hubert et de Jonathan Smith et Daniel Moreau, qui sont tous les deux professeurs à l'UQAT, l'Université du Québec à Trois-Rivières. Ce texte a été publié sur le site RIRE, le réseau d'information pour la réussite éducative, le 4 décembre. Le concept de motivation est plutôt flou et fait référence à un ensemble de forces internes et externes qui déclenchent des comportements tout en déterminant leur direction, leur intensité et leur persistance. De manière plus manifeste, en contexte d'apprentissage, les élèves peuvent choisir d'adopter certains comportements qui sont cohérents avec leurs convictions, préférences et aspirations. Ils peuvent aussi se comporter de façon à pouvoir se conformer à des attentes ou des exigences qui leur sont communiquées. Par ailleurs, de façon plus fâcheuse, certains élèves peuvent développer une apathie et devenir complètement insensibles à de pareilles influences internes et externes qui peuvent pourtant les inciter à agir de façon à réaliser les apprentissages souhaités. Il se pourrait alors qu'ils soient devenus amotivés. Jusqu'à 15 % des élèves pourraient développer une telle insensibilité. Les élèves qui font preuve d'amotivation, donc c'est le contraire de la motivation, sont effectivement dépourvus de toute motivation à apprendre, ce qui ne les incite guère à déployer des efforts ou des énergies. Cela pourrait être attribuable au fait qu'ils aient vécu des difficultés ou des échecs qu'ils ont associés à des forces incontrôlables. Par conséquent, ils en seraient effectivement venus à dévaloriser l'adoption de comportements qui leur sont pourtant vivement recommandés par leur entourage, ceux-ci leur semblant inefficaces pour atteindre certains résultats souhaitables. Ces élèves deviendraient passifs en classe parce qu'ils ressentent qu'ils ont peu de prise ou de contrôle sur ce qui s'y passe. Ils auraient d'ailleurs du mal à bien évaluer les conséquences de leur comportement, c'est-à-dire à associer les résultats qu'ils obtiennent aux actions qu'ils ont posées. C'est comme s'ils lâchent prise complètement. À la lueur des indications précédentes, nous pourrions faire l'hypothèse d'un lien entre l'état d'amotivation et celui de la dépression. En fait, La motivation serait vraisemblablement un symptôme commun de la dépression. Or, une personne pourrait être amotivée sans toutefois éprouver également de manière durable plusieurs des autres symptômes qui sont normalement observés chez la personne dépressive. Par exemple, de l'agitation psychomotrice, de la tristesse intense, des idées noires, des troubles de l'alimentation ou du sommeil, etc. Mais retenons que tout comme la personne dépressive, la personne amotivée peut avoir une perception altérée d'elle-même et peut démontrer peu d'entrain envers les objets et les situations. Parce qu'elle ressent un pouvoir infime, la personne amotivée n'est effectivement guère intéressée à aborder de nouveaux objets ou de nouvelles situations et à vouloir maîtriser ceux-ci. Elle peut même recourir à des stratégies d'évitement. De plus, elle peut se montrer agacée par le fait que l'environnement la contraint à aborder des objets ou des situations qui lui paraissent sans intérêt et sans valeur et qui semblent requérir des connaissances et compétences non maîtrisées. Que peuvent faire les enseignants? C'est la question que les enseignants se posent. Alors, ils se demanderont évidemment qu'est-ce qui peut être fait pour redonner aux élèves à motiver le goût d'apprendre. À cet égard, il semblerait que ceux-ci, les enseignants, gagneraient à mettre en œuvre des pratiques favorisant l'engagement des élèves dans leurs apprentissages. L'une d'entre elles consiste à proposer aux élèves des activités d'apprentissage qui représentent des défis signifiants et qui leur donnent l'opportunité de faire des choix sur la base de leurs habiletés et de leurs intérêts personnels. Cette pratique permet, d'une part, aux élèves de retirer une certaine satisfaction de leurs apprentissages. D'autre part, elle contribue à renforcer leur perception de contrôle vis-à-vis les objets ou les situations, en plus de favoriser leur autonomie et le développement de leurs compétences. Une autre pratique favorable à l'engagement consiste à établir un cadre relationnel favorable à l'émergence d'une identité scolaire gratifiante et à la préservation de l'estime de soi. Il est recommandé d'entretenir des attentes élevées à l'égard de chacun de ses élèves et de considérer les erreurs comme des occasions d'apprendre et non comme des échecs. Ces pratiques d'enseignement méritent considération car elles ont fait la preuve de leur incidence positive sur l'engagement scolaire. Pour en apprendre davantage sur la motivation à apprendre, on peut aller sur le site Internet Appui Motivation. C'est un site qui est destiné aux personnes qui veulent en savoir plus sur l'engagement scolaire, sur la motivation. Et il s'appuie sur des travaux du professeur Roch Chouinard de l'Université de Montréal, que j'aime d'amour. Et il y a un dossier thématique aussi sur le même site, le site RIRE, R-I-R-E, où on trouve des articles, des guides, des ressources web qui peuvent être consultées gratuitement par les internautes à propos de la motivation scolaire. Alors voilà pour ce texte sur la motivation. Alors Monique?
Oui, alors on revient sur un événement passé, donc Irma. C'est un article de Loïc Chauveau avec Sylvie Roy et Rachel Mulot pour la revue Science et Avenir d'octobre 2017. Alors, l'article s'intitule « Irma inaugure une ère de super cyclone ». Alors, entre son repérage par le satellite américain Suomi, des îles du Cap-Vert, et à sa dissipation en tempête tropicale au-dessus du Tennessee le 12 septembre, l'ouragan Irma a tué 82 personnes, a aussi provoqué, on le sait, des milliards de dollars de dégâts et battu de nombreux, records. Oui. Je vous en donne deux. 297 km/h, la vitesse du vent sur l'Atlantique pendant 37 heures d'affilée.
C'est énorme.
Trois jours, la durée pendant laquelle l'ouragan est resté classé en catégorie 5. Du jamais vu dans l'Atlantique. Donc, pour les prévisionnistes météo, Irma est un cas d'école qui pourrait bien préfigurer l'intensité et la puissance des ouragans des prochaines décennies. Principale caractéristique, c'est le premier ouragan de force 5, né dans l'Atlantique, a affecté l'arc antillais. Auparavant, Hugo en 89 et Louis en 95 étaient de force 4. Mm-hmm. Cela explique en partie l'ampleur des dégâts. Jamais Saint-Martin ni Saint-Barthélemy n'avaient connu une telle puissance de vent, approchant les 300 km/h et surtout une telle élévation du niveau général de la mer, estimée à plus d'un mètre, à laquelle il faut ajouter les 5 et 7 mètres de la puissance des vagues. Mm-hmm. En conséquence, les bâtiments et infrastructures n'ont pas résisté à des conditions aussi extrêmes. En dépit de ces effets dévastateurs, Irma peut-il être considérée comme le plus puissant des ouragans dans la région? Dans leurs archives, les météorologues ont gardé trace d'un monstre considéré comme encore plus intense, car il alliait des vents d'une force exceptionnelle de 305 km/h, même s'ils n'ont pas soufflé aussi longtemps que ceux d'Irma, à une dépression creusée de 899 millibars. C'est Allen qui a ravagé l'ensemble des Caraïbes, même la Martinique, entre le 31 juillet et le 11 août 1981, pardon, entraînant la mort de 269 personnes. Le record absolu de basse pression est cependant détenu par Wilma. Autre question importante, l'année 2017 est-elle exceptionnelle? Mm-hmm. Le 9 août, le Centre national des cyclones américains prédisait à 60 % une année au-dessus de la moyenne. Harvey, qui a noyé Houston, la capitale du Texas, fin août, puis Irma, suivie de José et Maria, qui ont affecté les Antilles courant septembre, confirme ces prévisions. Pour autant, 2017 est moins actif que 2005, avec ses 22 tempêtes tropicales et ses 4 ouragans de force 5, dont Wilma et surtout Katrina, qui ravagea la Nouvelle-Orléans. Donc, en toute logique, le réchauffement climatique a malheureusement tout pour accentuer le caractère destructeur des ouragans. Selon les premiers modèles développés au cours des années 90, on devrait s'attendre à une multiplication par deux du nombre de cyclones d'ici la fin du siècle et à une augmentation de leur puissance par le simple fait que la chaleur captée par les premiers mètres d'eau de la surface des océans est leur principal moteur. Donc, en 2016, l'équipe de Thomas Knutson du Laboratoire de dynamisme des fluides de l'Université Princeton aux États-Unis a publié la projection la plus fine jamais réalisée sur l'activité cyclonique d'ici la fin du siècle. Ces résultats montrent une surprenante réduction de 16 % à l'échelle mondiale des cyclones, mais à une augmentation de 24 % des événements de puissance de 4 et 5 du type Irma.
Donc, il y en a plus.
Il y a plus de force,
ouais,
et moins de tempêtes.
Ah bon.
Oui. Les différents modèles de prévision se sont raffinés et ça a permis aux autorités des différents pays de la Caraïbe de bénéficier de plus de 2 jours pour informer les populations, diffuser les mesures de précaution, organiser les refuges et réduire ainsi le nombre de victimes. Mm-hmm. On comprend mieux le 82 par rapport à 260.
On est mieux préparé.
On est mieux préparé. Mm-hmm. Irma a également permis une première technique. Tout au long des 12 jours d'existence, des milliers de données ont certes été enregistrées par différents moyens, mais ont produit une visualisation des densités de précipitations à l'intérieur même de la dépression. C'est beaucoup d'éléments donc qui font avancer la science et les connaissances. Mm-hmm. Autant d'éléments qui constituent un domaine de recherche qui permettra à terme d'épargner de nombreuses vies et de minimiser les pertes matérielles. Sinon, on est dans l'apocalypse.
Mmh. Oui, c'est ça.
Alors, voilà.
Mmh. Alors, sur cette note venteuse, on poursuit avec Yvan, tiens? On poursuit avec Yvan? Oui, rappelons-nous l'auteur de ces articles.
Ah, excusez-moi, j'avais complètement oublié. Alors, Loïc Chauveau, Sylvie Roua, Rachel Mulot, pour la revue Science et Avenir d'octobre 2017.
Merci, Monique. Alors, sur une note plus joyeuse, tiens, Yvan.
Oui, définitivement plus joyeuse. Ouais. La semaine dernière, avec la grande guignolée des médias, il y a un organisme qui se met toujours en évidence lors de ces événements-là, c'est Jeunesse au soleil. Mais je vous présente Jeunesse au soleil dans un tout autre contexte. C'est sous la plume de Marie-Claude Lortie dans la presse du 26 novembre. Donc, à la fin du mois de novembre, il y a 30 personnalités de la semaine issues du programme de football de Jeunesse au soleil qui ont été nommées par la presse. Mmh. Et c'est l'article que je vais vous raconter. Alors, lors du dernier week-end de novembre, une quinzaine des quelques 30 entraîneurs bénévoles travaillant avec le programme de football de Jeunesse au soleil sont allés au New Jersey. Un voyage qu'ils ont fait dans l'autobus, dans le car que leur prête leur organisme. Ils sont invités ainsi chaque année à assister à un bon match de leur sport préféré. Cette fois-là, c'était une partie de football collégial américain, Rutgers contre Michigan State. Ça fait une dizaine d'années que je fais ça et c'est toujours bien agréable, nous dit Jesse Blizzard, entraîneur de l'équipe de niveau Bantam. C'est une façon de dire merci. Alors la presse, elle, a choisi ce week-end-là, à la fin du mois de novembre, pour dire aussi bravo à la trentaine de bénévoles qui, année après année, donnent immensément de temps et d'énergie pour permettre à des jeunes, souvent de milieux défavorisés, puisque c'est là la mission de Jeunesse au soleil, de bouger, de s'exprimer, de se défouler, de se surpasser en jouant au football. Cette année-ci, nos 30 personnalités de la semaine ont eu une année particulièrement fructueuse. 3 équipes se sont rendues aux championnats interprovinciaux. Aussi, l'équipe Bantam de M. Blizzard, un salarié de Jeunesse au soleil qui est en plus entraîneur de football bénévole, a gagné le championnat provincial le 12 novembre en battant les Barons de Saint-Bruno au stade Hébert de Saint-Léonard. C'est la première fois que l'équipe de Jeunesse au soleil remportait ce titre. Une semaine plus tard, le 19 novembre, l'équipe a remporté le championnat interprovincial où s'affrontent les meilleures équipes du Québec et de l'Ontario en défaisant les Knights de Kanata, ville de la banlieue d'Ottawa. En tout, l'organisme de la rue Saint-Urbain a amené 3 équipes en finale à ce championnat interprovincial qui en est à sa première année. Oui, dit M. Blizzard, on est pas mal fiers. Je suis la mère d'un joueur de football de Jeunesse au soleil et depuis 5 ans, je suis témoin du dévouement des entraîneurs bénévoles de ce club, nous dit Emma Ferreira, qui est professeure et vice-doyenne de la faculté de pharmacie de l'Université de Montréal. Avec peu de moyens et en acceptant que tous les joueurs qui le désirent jouent, ils réussissent à unir une équipe. L'équipe est formée de jeunes de tous les coins de Montréal, souvent issus de milieux défavorisés. Selon elle, le fait qu'ils ont réussi sans présélection à remporter les 2 championnats constitue un véritable exploit. Sur le site web de l'organisme, on apprend que c'est en 1954 que Jeunesse au soleil a été fondée pour donner accès aux jeunes défavorisés résidant dans le quartier Saint-Louis à Montréal à des activités sportives.
Wow!
On parle
impressionnant!
Mm-hmm. Oui. Oui, surtout sur la durée, oui, hein, oui, c'est quand même c'est 63 ans. On parle ici de la zone qui s'appelle maintenant le Petit Portugal. Depuis, le rayonnement s'est passablement étendu, si bien que l'institution sert tant Villeray que Notre-Dame-de-Grâce en passant par le plateau et Côte-des-Neiges. Notre territoire est pas mal vaste, explique M. Blizzard. Mais une chose demeure, presque tous les jeunes qui fréquentent l'organisme pratiquent un sport. Que ce soit au sein d'une des équipes sportives, à la colonie de vacances ou au camp de jour, et les frais d'adhésion varient selon les activités et le revenu familial. C'est ainsi que des jeunes de 7 à 18 ans peuvent jouer au football. En tout, 160 jeunes font partie des équipes. Ce sont les Hornets, ce qui signifie en français « frelon ». Le sens de ce symbole? La piqûre pour le sport et l'esprit d'équipe. Les activités ont lieu après les heures scolaires et pendant les week-ends, car Jeunesse au soleil estime, malgré tout, que le travail scolaire doit avoir la priorité sur le sport. Le programme a produit de grands talents et bien des joueurs ont gravi les échelons du sport pour se rendre même jusqu'au niveau professionnel, comme Julien Feoli-Gudino. Lui a joué pour le Rouge et Or de l'Université Laval et il joue présentement pour les Blue Bombers de Winnipeg, la Ligue canadienne de football. C'est un jeune d'origine costaricaine. Ou Mike Dubuisson, récemment embauché par les Rough Riders de la Saskatchewan. Aujourd'hui, le recrutement pour les équipes se fait surtout par les réseaux sociaux, explique M. Blizzard, et les jeunes qui s'en parlent entre eux. Et qui sont les 30 bénévoles qui les entraînent? Des parents, des sportifs, des anciens. Donc, des gens qui veulent redonner à l'organisme. La plupart sont avec l'organisation depuis un bon bout. On compte parmi eux tant des professeurs que des électriciens, des gens d'affaires ou des banquiers. Ce sont surtout d'anciens joueurs qui reviennent donner leur temps, ajoute-t-il, et on est très fiers de les avoir. Puis dans la suite de l'article, on nomme les 30 personnes que je ne vous nommerai pas parce que...
Oui, oui.
Mais
c'est intéressant. Puis moi, je fais le lien entre le nom de Monsieur Blizzard et Irma.
Oui, c'est ça.
Ça aurait pu être avec la température d'il y a deux jours aussi.
Ça aurait pu. Ça
Malheureusement, ils doivent déménager parce que la CSDM veut récupérer
les locaux.
Des locaux, oui, c'est ça. Ils sont pas pour parler, mais hier, c'était une des manchettes.
On va suivre ça.
Attentivement. Alors, une petite brève. Le prestigieux guerrier viking, entouré d'un riche armement exhumé à Birka sur l'île suédoise de Björkö en 1880, était une guerrière. Si l'existence des femmes combattantes de haut rang a longtemps été rangée au rayon des légendes, eh bien, c'est fini, parce que les analyses ADN prouvent définitivement leur existence.
Oh, bon! Alors, le guerrier était une guerrière. Fascinant.
Oui.
Yvan?
Moi, de mon côté, je vous reviens avec une brève que j'ai déjà lue en partie, mais à cause des dates, ça vaut la peine de revenir. Ça vient du site sportaveugle.qc.ca. C'est à propos de l'inscription du programme Du sport pour moi pour hiver 2018. À Montréal, les enfants seront initiés au ski de fond, à la raquette, au patin et au judo. La session se déroulera du dimanche 14 janvier au dimanche 25 mars 2018 inclusivement. Il y a un programme aussi pour Québec-Lévis. Si on va sur le site, on peut cliquer pour voir le programme. Les inscriptions sont ouvertes aux enfants semi- et non-voyants ainsi qu'à leurs frères et sœurs âgés de 6 à 14 ans. Il est possible de s'inscrire du mardi 28 novembre au lundi 8 janvier. Alors, il y a encore trois semaines à peu près.
Ouais.
Le tarif est de 125 $ pour les membres de l'ASAQ. Prenez note qu'en date du mardi 9 janvier, le lendemain de la fin de l'inscription, un minimum de 4 participants est requis afin que l'activité ait lieu. Alors, c'est pour ça que je revenais avec celle-là.
Oui, tout à fait. Alors, est-ce qu'on a le temps pour quelques mots d'enfant? Oui, hein?
Oh, oui, oui.
Alors, allons-y. D'abord, le vent, parce qu'il y en a pas mal actuellement. Le vent, selon Alice, 9 ans, c'est le souffle créé par le déplacement d'air à cause de la Terre qui tourne très vite.
On va lui demander de ralentir,
surtout
aujourd'hui.
La Terre est trop stressée.
Pour Yacine, qui a 5 ans et demi, un mendiant, c'est un monsieur qui demande des sous pour manger, alors que les pièces, ça ne se mange pas. Alors, voilà. J'ai le temps pour un dernier. Dinosaures, selon Jenna, 5 ans, ce sont des animaux qui vivaient dans l'ancien temps, quand ma mémé est née.
Oh, <palais. rire>
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à Mathieu Tessier pour les liens musicaux, pour la mise en onde. Merci Monique. Merci Yvan. Oui. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute. On vous retrouve la semaine prochaine. Mm-hmm. Au grand plaisir. Passez une bonne semaine.
Au revoir.
Au revoir.